de ce qui avait été dit il y a 15 jours, quelques réflexions sur l'adoration. Le but, c'est pas de traiter exhaustivement ce thème, mais vous donner quelques pistes pour que chez vous, dans votre intimité, que vous puissiez avoir un culte personnel et que vous puissiez aussi le dimanche matin, quand on se rassemble ou à d'autres moments, par exemple le week-end d'église, c'est aussi une occasion pour louer le Seigneur, se faire du bien, l'adorer. Je vous ai dit, c'était une attitude permanente. Donc je voulais partager avec vous quelques réflexions sur qu'est-ce que la Bible nous dit de la relation avec Dieu, de l'adoration, de la louange, comment le servir. Voilà, ce sera quelques pistes. Je serai pas très long. Voilà, comment rendre un culte à Dieu? Alors, on va voir dans l'Ancien Testament. Puis après, on reviendra au Nouveau Testament. On va voir comment faisait Jésus. Parce que Jésus est devenu homme pour nous montrer aussi la voie. Et c'est intéressant de voir comment Jésus voyait, lui, cet hommage rendu au Père que nous devrions avoir et que nous aurons de toute façon lorsque nous serons au ciel. Puisque notre activité principale au ciel, ça va être de rendre un culte à notre Dieu. Alors, qu'est-ce que nous dit l'Ancien Testament sur rendre un culte? Il y a trois mots principaux qui sont utilisés. Vous verrez, je vais les accompagner de quelques versets pour bien vous faire comprendre. Il y a un premier mot en hébreu qui, peu importe le mot, ne le retenez pas. C'est le mot abad, mais c'est un mot qu'on retrouve très tôt, lorsque le peuple va sortir d'Égypte, lorsque Dieu parle à Moïse, en fait, bien avant que le peuple ne sorte d'Égypte, il dit, voilà, je serai avec toi, quand il l'envoie vers Pharaon, Dieu envoie Moïse à Pharaon, il dit, je serai avec toi, et voici le signe qu'on reconnaîtra que c'est moi qui t'ai envoyé, lorsque tu m'auras fait sortir le peuple, vous m'adorerez sur cette montagne, ou vous me servirez sur cette montagne, ou vous me rendrez un culte, selon les versions. Voilà. C'est ce mot « servir » et « rendre un culte » à Dieu que Dieu va utiliser ici pour illustrer son propos. Ce qui est intéressant à voir, c'est que ce mot est utilisé dans d'autres contextes. Et c'est ça qui est important à comprendre. Lorsque Dieu crée l'homme, qu'il le met dans le jardin d'Éden et qu'il lui donne une mission de cultiver le jardin, Dieu va utiliser le même mot. Ça veut dire que le peuple qui sort et qui va louer le Seigneur sur la montagne du Sinaï, ou Adam qui travaille dans le jardin, qui effectue une tâche quotidienne, c'est adorer le Seigneur. C'est-à-dire que on peut adorer le Seigneur dans son travail. Que vous soyez plombier, enseignant, architecte, peu importe, que vous travaillez dans une petite ou une grosse société à votre compte, lorsque vous travaillez, et c'est la mission, cultiver le sol, lorsque vous travaillez, vous pouvez rendre un culte à Dieu. Le travail, c'est une façon de rendre un culte à Dieu, d'honorer le Seigneur. Il y a des gens qui disent « oui, mais le travail a été maudit par Dieu ». Non, c'est faux. C'est faux. Dieu a donné le travail comme une mission à l'homme et aussi un moyen de se construire. Ce qui s'est passé avec le péché, c'est que les conditions du travail ont été maudites. Le sol a été maudit et donc le travail de cultiver, qui était un travail, on va dire, peut-être pas facile, qui nécessitait un effort mais qui n'était pas pénible, Dieu l'a rendu pénible, ça fait partie de la malédiction suite au péché. Donc travailler, c'est aussi rendre un culte à Dieu. Il faut bien comprendre ça. Une troisième expression, lorsque les Égyptiens voient que le peuple juif, le peuple hébreu se multiplie, ils les prennent en aversion et ils vont les réduire en esclavage. Et là encore, on a le même mot. C'est-à-dire que le mot « adorer, rendre un culte », ça peut être aussi un esclavage, une servitude, une difficulté. Donc, en fonction de la manière avec laquelle on voit ça, on pourrait se dire « bah tiens, ça me casse les pieds, venir au culte le matin, c'est long, je m'ennuie. » Et je dois reconnaître, au début de ma conversion, les cultes me paraissaient longs. C'est long d'entendre les gens prier, etc. Ça peut être une servitude. Et puis, si on va plus loin, le mot servitude, on peut avoir même un esclavage. On peut adorer d'autres personnes et être esclave. Lorsqu'on a une addiction quelconque, par exemple pour les hommes, une addiction à la pornographie, eh bien, c'est un esclavage. C'est le même mot. Mais on sert quelqu'un d'autre. On ne sert pas, on n'adore pas Dieu. On adore quelque chose d'autre. Ça peut être une addiction à n'importe quoi, aux jeux vidéo, au téléphone, tout ce que vous voulez, aux drogues, aux psychotropes. Donc c'est le même mot ici. Donc quand on rend un culte, attention, c'est pour ça que c'est important, j'insiste, de savoir se centrer sur Dieu. Parce que si vous ne vous centrez pas sur Dieu, vous risquez de vous centrer sur autre chose. Ça peut être une addiction dans votre vie. Et le travail, n'oubliez pas, le travail, c'est aussi une façon d'honorer le Seigneur. Donc dans l'Exode, par exemple, dans le livre des Nombres, lorsque les Israélites travaillaient dans le tabernacle, lorsqu'ils servaient Dieu, eh bien c'est aussi le même mot qui est utilisé. Et c'est pareil dans le livre des Rois, lorsque les mauvais rois d'Israël et de Juda adoraient Baal, eh bien c'est exactement le même mot, ils servaient Baal. Donc attention, si on ne sert pas Dieu, on sert quelqu'un d'autre, on sert autre chose. Et on a vu tout à l'heure, enfin je vous ai rappelé la dernière fois, j'avais insisté là-dessus, c'est que l'homme a été créé pour servir et adorer quelqu'un. Donc si c'est pas Dieu, c'est quelqu'un d'autre, c'est quelque chose d'autre. Voilà, c'est un mot qui est largement utilisé dans l'Ancien Testament, 290 fois, et qui nous montre bien que l'homme a été créé pour être un adorateur et un serviteur de quelqu'un de plus grand que lui. Que vous le vouliez ou non, que vous proclamiez ni Dieu ni maître, comme le slogan de mai 68, vous aurez de toute façon un maître. Ça sera soit le Dieu vivant que vous allez à qui vous allez rendre un culte, ou bien vous allez adorer quelque chose d'autre, une philosophie, etc. C'est pour ça que Paul disait aux Colossiens, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par une philosophie ou par de vaines tromperies. Il mettait en garde les Colossiens. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par de vaines tromperies. Et les vaines tromperies, ça peut être une habitude. Ça peut être une addiction que j'ai. Alors si ce matin, quelqu'un a une addiction qui l'empêche de servir le Dieu vivant, la bonne nouvelle, c'est que Dieu peut briser ses liens. Vous pouvez venir à Jésus, lui demander pardon, lui dire « Seigneur, je reconnais, j'ai cette addiction, je n'arrive pas à la casser. J'ai du mal. » Aide-moi, Seigneur, à casser cette addiction. Viens m'aider, viens en moi, et aide-moi à être un adorateur du Dieu vivant. Parce que Jésus a dit à la Samaritaine, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. C'est le Saint-Esprit qui vit en nous, qui peut casser, briser cette addiction, et qui peut nous tourner vers le Seigneur. Le premier mot, abad, rendre un culte. Il y a un deuxième mot, pour illustrer un petit peu ce propos, qu'on trouve, c'est un mot araméen, qu'on trouve dans le livre de Daniel. Vous savez que le livre de Daniel, vous ne savez pas, le livre de Daniel est un livre extraordinaire en fait, qui a été écrit en deux langues. Il y a une première langue, une introduction et une fin qui est écrite en hébreu, et la partie du milieu qui concerne le rêve de Nebuchadnezzar, la statue, etc., les Hébreux dans la fournaise, c'est écrit en araméen. Pourquoi ? Parce que c'est un livre qui s'adresse à toutes les nations. Et donc, dans ce livre de Daniel, c'est un autre mot araméen, qu'on retrouve donc dans Daniel, Daniel au chapitre 2, lorsqu'à un moment donné, Daniel est condamné à mort avec ses amis. Je suppose que vous connaissez le livre de Daniel, si vous ne le connaissez pas, allez lire le livre de Daniel. Daniel est avec ses compagnons, il est en exil à Babylone, et à un moment donné, il fait partie donc des sages. Il a été choisi par le roi, et à un moment donné, le roi a un rêve, et personne ne peut l'interpréter. Et donc, le roi rentre en colère, il est furieux, et il fait mettre à mort tous les sages. Il dit, tous les sages vont être exécutés, parce que vous n'êtes pas capable d'interpréter mon rêve. Et donc, Daniel, il est sur la liste avec ses copains, il rentre à la maison, il se met à louer le Seigneur, et dans la nuit, Dieu lui révèle le rêve. Et donc, au moment où Dieu lui révèle le rêve, Daniel prend la parole et dit « Béni soit le nom de Dieu ». Et il utilise ce mot, c'est-à-dire qu'il loue le Seigneur. « Merci Seigneur, tu m'as révélé ce rêve, tu m'as sauvé de la mort, tu as sauvé de la mort tous les sages de Babylone ». Et donc Daniel va interpréter le rêve de la statue, il sera honoré par Nebuchadnezzar. C'est ce mot-là, c'est ce mot qui est utilisé. Et regardez dans Daniel 5, donc Daniel 5 c'est beaucoup plus tard, on est 50 ans plus tard, le roi Belshazzar, un mauvais roi, dans la nuit où Babylone est tombée aux mains des Perses, juste avant la nuit, il fait la fête, il fait amener toutes les coupes d'or et d'argent de Dieu, Et ils se mettent à louer les dieux d'or, d'argent. Et là, c'est le même mot aussi. C'est pour vous illustrer qu'on peut avoir la même expression pour indiquer soit l'adoration du dieu vivant, soit l'adoration de statues. À l'époque, c'était des dieux d'or, d'argent, de fer, de bois, de pierre. Aujourd'hui, eh ben, vous mettez le nom de différents dieux du monde présent. Bien sûr, on se croit plus intelligent, donc on n'a plus de statues chez nous qui qui ressemblent à une idole, mais bon, on en a d'autres quand même. Voilà. Le troisième mot qui est utilisé dans l'Ancien Testament, c'est un autre mot, qui est le mot Hawa. Alors le mot Hawa, c'est intéressant parce que ça veut dire en fait proclamer, déclarer, souffler, c'est dire. C'est ce qu'on a essayé de faire tout à l'heure, soit à haute voix, soit en deux à deux, soit dans le fond de votre cœur. C'est de proclamer quelque chose. Et là, on va le retrouver dans plusieurs endroits, bien entendu, mais... Je reviens à l'Exode, au moment où le peuple se rend compte que Moïse sera le libérateur, ils sont tellement contents, parce qu'ils ont passé 400 ans en Égypte, 400 ans en Égypte, le peuple croit, et donc ils s'inclinèrent et adorèrent le Seigneur. C'est ce mot-là, c'est-à-dire qu'ils ont proclamé la grandeur, la majesté. C'est l'idée de souffler, c'est exprimer quelque chose, expirer, souffler, déclarer, montrer du doigt comment Dieu est grand. Alors on le retrouve de manière positive, mais on va le retrouver également dans les 10 commandements. Lorsque Dieu donne les 10 commandements, le deuxième commandement, c'est « Tu ne te feras pas de représentation de Dieu ». Pourquoi ? Parce que Dieu est esprit. Tu ne te feras pas de représentation de Dieu. Ça veut dire toutes les statues dans les églises. Ça veut dire toute la peinture classique. À partir de la Renaissance, où on exprimait Dieu, on voyait Dieu comme un vieillard, plafond de la chapelle Sixtine, Dieu le grand vieillard qui donne le doigt, ben, tout ça c'est une entorse au deuxième commandement. Pourquoi ? Et pourquoi Dieu dit ça ? Parce qu'à un moment donné, on va se faire une fausse image de Dieu. Aujourd'hui, par exemple, si vous avez eu un père âgé, certaines personnes ont eu un père âgé, hein, leurs parents les ont eus tard. Eh bien, lorsqu'on a un père âgé, par exemple quand je suis jeune ado et j'ai un père qui a les cheveux blancs, eh bien, si je me plaque sur l'image de Michel-Ange, plafond de la chapelle Sixtine, je me dis « Dieu est un vieillard ». Si Dieu est un vieillard, ben, le vieillard il est plus faible, donc Dieu est faible, il n'est pas capable de m'aider. Vous vous rendez compte ce que ça peut provoquer dans une vie? Et je vous en parle en connaissance de cause parce que j'ai vu des gens comme ça qui disent ben, « voilà, Dieu il peut pas m'aider ». Ben oui, parce que si Dieu est un vieillard, si je me fais une représentation qui est fausse, ça s'appelle une idole. C'est pour ça que Dieu dit, tu ne te prosterneras pas et tu ne les serviras pas. Et le mot prosterner, c'est ce mot Hawa. Donc d'un côté, on peut adorer, comme dans Exode 4:31, et de l'autre côté, dans les 10 commandements, on peut se prosterner, on peut adorer, on peut souffler, on peut dire quelque chose d'une idole. Vous comprenez ça ? Donc c'est important de comprendre que l'Ancien Testament, dès le départ, je vous ai pris quelques extraits, mais il y a plein d'autres textes, hein, on va pas rallonger, mais on peut toujours balancer entre l'adoration du Dieu vivant et la bascule de l'autre côté. C'est pour ça qu'il faut être vigilant, c'est pour ça que Paul dit aux Colossiens, Colossiens 2:8, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. » Alors, qu'est-ce que nous dit Jésus dans le Nouveau Testament ? Donc, dans le Nouveau Testament, il y a ce fameux texte de la Samaritaine qui est très important pour moi. C'est un texte que j'ai redécouvert cet été, justement, avec cette idée de centrer ces cultes l'été sur l'adoration. C'est que j'avais parlé l'année dernière de la Samaritaine, mais d'un autre point de vue, comment Jésus réhabilite une femme brisée. Et j'avais complètement omis qu'il y avait cet enseignement, enfin, j'avais pas omis, je ne m'étais pas rendu compte, mais en méditant le texte, il y a un enseignement fondamental sur vraiment l'adoration. Et le mot qui est utilisé, adoration, hein, dans ce texte de la Samaritaine, il est employé 9 fois. 9 fois rien que dans ce texte. C'est énorme pour un texte. Et vous savez que lorsque la Bible répète les choses, c'est que c'est important. Pour en revenir à Nébuchadnezzar, c'est le rêve de Joseph. Hein, quand Joseph interprète le rêve à Pharaon, il donne 2 visions du rêve. Et Joseph dit à Pharaon, si le rêve s'est répété 2 fois, c'est que Dieu vraiment, il insiste dessus. De la même façon, Jésus, quand il dit « en vérité », hein, c'est important, ce qui va sortir, quand ça se répète, c'est important. Donc là, si le mot est utilisé 9 fois, le mot « adorer » dans Jean chapitre 4, l'épisode de la Samaritaine, c'est que ce mot, c'est très important. Et c'est un mot Le mot qui est utilisé en grec ici dans le texte de la Samaritaine, c'est un mot qui est utilisé exclusivement pour Dieu et pour Jésus. Exclusivement. On le voit apparaître la première fois dans Matthieu, à l'introduction du livre de Matthieu, lorsque les mages viennent, et viennent adorer, apporter leurs présents. Hein, c'est pas les rois mages, hein, c'est pas Melchior, Balthazar, ni les frères inconnus, hein, enfin ni les inconnus, c'est pas du tout ça. Mais lorsqu'ils viennent présenter leurs cadeaux, eh bien, on utilise ce mot-là aussi. Ce mot adoré, hein, qui est réservé à Dieu et à Jésus. Et ce mot, encore une fois, alors je vais faire la bascule, le pendant, c'est ce mot même qui est utilisé par Satan lors de la tentation de Jésus. Il lui dit, toutes ces choses seront à toi si tu te prosternes et si tu m'adores. Et Satan va utiliser le même mot, il va détourner. Vous comprenez que l'enjeu de notre vie terrestre, c'est un combat sans arrêt entre l'adoration du Dieu vivant qui nous est promise ou qui nous est demandée, et l'adoration d'autre chose. Et Satan, il est tout le temps là parce qu'il veut se faire adorer. Il est tout le temps là. Lorsque Pierre arrive chez Corneille, Corneille, il se prosterne devant lui et Pierre lui dit « Non, non, mais relève-toi, moi je suis qu'un homme. » Eh bien, c'est le même mot. Pierre refuse ça parce que c'est un mot qui est réservé à Dieu. Et pareil, lorsque Jean, dans l'Apocalypse, l'ange vient lui présenter Jean et se jette à ses pieds, hein, et l'ange lui dit « Non, non, mais adore Dieu, moi je suis qu'un ange. » Donc vous voyez, c'est vraiment exclusivement réservé à Dieu. Hein. Et le pendant, dans le livre de l'Apocalypse, lorsqu'on a les survivants de la période de tribulation, hein, en Apocalypse 9-20, les survivants de la période d'iniquité continuent à adorer les démons et à adorer Satan. Et on retrouve encore le même mot que Jésus utilise pour la Samaritaine. Donc on a ces deux pendants en permanence, adorer Dieu ou adorer quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre. Alors le modèle de Jésus, très rapidement, qu'est-ce qu'on peut retirer finalement du modèle de Jésus? Comment est-ce que Jésus a développé cette habitude d'être en relation avec le Père? Comment est-ce que nous pouvons le faire quand on regarde à Jésus? La Bible nous dit, tournez vos yeux vers le Seigneur, regardez à Jésus, regardez à Jésus. Si vous avez du mal, si vous avez un combat dans vos addictions, dans vos difficultés, regardez à Jésus. Parce que Jésus, c'est le modèle parfait. C'est le modèle parfait. Alors, 6 réflexions. Première réflexion, Jésus, il était très souvent dans le temple. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut venir adorer à l'église uniquement. Ce n'est pas à l'église. C'est l'époque. Il faut se projeter à l'époque. Le temple, c'était le lieu où Dieu était présent. Parce que Jésus n'était pas encore venu déchirer le voile. Donc, Dieu était limité à une partie du temple qui était le lieu très saint. Mais Jésus était en permanence dans le temple. Hein, j'étais chaque jour assis dans la cour du temple pour donner mon enseignement. Jésus, sans arrêt, il allait dormir à Béthanie, sur le mont des Oliviers, et il revenait au temple. Pourquoi? Parce qu'il revenait vers le Père. C'était l'image du Père à l'époque. Donc je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut venir qu'à l'église. Hein. Je m'entends bien. Mais vous voyez ce que Jésus faisait par rapport à son époque, par rapport encore, il est dans l'ancienne alliance encore. Il est en train d'accomplir la loi, la nouvelle alliance n'est pas instaurée encore, donc Jésus était dans le temple. Voilà. Et aujourd'hui, Jésus dirait, ben, moi je vis en toi, tu es le temple du Saint-Esprit, hein, ce que nous dit l'Épître aux Éphésiens. Et donc, on peut adorer Dieu dans sa chambre, dans la solitude, on peut adorer Dieu dans sa voiture, dans le métro. On peut penser à un caractéristique de Dieu dans le métro. Seigneur, merci, tu es grand. Merci de me donner ce moyen de transport, parce que je n'ai pas à marcher 20 km par jour. Je peux prendre le métro, je peux prendre ma voiture. Encore une façon de louer Dieu. Alors, Jésus était très souvent dans le temple, premier point. Deuxième point, Jésus était un passionné de la maison de Dieu. C'est un verset qui nous dit, hein, ce verset de Jean, « Le zèle de ta maison me dévore. Hein, » ou ça, c'est la version Summer. Hein, « L'amour que j'ai pour ta maison me consume, mais le zèle de ta maison me dévore. Hein, » Jésus était passionné par la maison de Dieu. Est-ce qu'on est passionné par Dieu? Est-ce qu'on est amoureux de Dieu? Au point de vraiment être en relation avec lui, penser à lui tout le temps. C'est ça en fait, être amoureux de Dieu, c'est penser à lui tout le temps. Passionné par la maison de Dieu. Troisième point, la priorité de Jésus, c'était d'amener des enfants dans la maison de Dieu. Ça paraît bête de dire ça. Hein. Mais Jésus, et il le fait au sens propre. Hein. C'est-à-dire qu'il parle des petits-enfants, j'en ai parlé tout à l'heure. Jésus se plaît quand il y a des enfants, quand il y a ses enfants dans la maison de Dieu. C'est aussi ça l'évangélisation. C'est pour ça qu'on va faire ce thème de devenir un chrétien contagieux, parce qu'on veut amener des gens dans la maison de Dieu. Pas les amener à l'église, non, les amener au contact de celui qui est le chef de l'église. L'église, c'est juste un lieu où on se rassemble et où on se fait du bien. Jésus était passionné par la maison de Dieu et il voulait amener des enfants dans la maison de Dieu. Quatrième réflexion, Jésus était conscient que les gens avaient soif de la parole. Ils avaient soif de la parole. La Bible ici, ça c'est la version Sommer, je crois, tout le peuple l'écoutait attentivement. Le mot qui est utilisé là, c'est littéralement le peuple était suspendu à ses lèvres. Quand Jésus parlait, les gens l'écoutaient, parce qu'il y avait une soif de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, parmi nos contemporains, il y a vraiment une soif de la parole. Les gens recherchent quelque chose, ils recherchent du spirituel. Les gens cherchent. On aura peut-être dans quelques temps le témoignage de notre ami Théo, qui a cherché pendant longtemps la parole de Dieu, qui l'a trouvée, merci Seigneur. Mais les gens cherchent la parole de Dieu. Ils ont soif de quelque chose de vrai. Ils n'ont pas soif de tradition, ils n'ont pas soif de venir à l'église. Parce que beaucoup sont déçus par l'église, beaucoup ont été baptisés, ont fait un enseignement dans une école catholique par exemple, ils ont été un peu écœurés par ce moment d'enseignement, ils ont été blessés par l'église, et donc ils ont pas soif de l'église particulièrement, ils ont soif de la parole de Dieu. Et vraiment il faut prier pour ça, pour que Dieu nous mette sur le chemin des gens qui ont soif de la parole de Dieu, qui ont besoin d'entendre ce qu'on a à leur dire. Parce que les gens ont soif de la parole de Dieu. Il y a un verset dans l'Ancien Testament, je crois que c'est dans Osée, qui dit à un moment donné que le peuple était tellement rebelle, il est dit comme ça, de mémoire je cite, « Ils tituberont à la recherche de la parole de Dieu, mais ils ne la trouveront pas. » Vous connaissez ce verset, c'est dans un petit prophète, je crois que c'est Osée. « Ils tituberont à la recherche de la parole et ils ne la trouveront pas. » C'est une grâce qu'aujourd'hui, on ait des Bibles à notre disposition. Et c'est cette Bible qui peut nous rendre vraiment la connaissance du vrai Dieu, qui peut nous permettre d'être des adorateurs. Donc Jésus comprenait cette soif de la parole de Dieu et ils étaient suspendus à ce que Jésus disait. Et puis dans le culte, eh bien il y a aussi l'offrande. Alors vous remarquez que pour ceux qui visitent Sonra ou ceux qui sont là depuis peu de temps, nous n'avons pas de collecte. D'accord ? On a pris la décision, je trouve très sage, de ne pas faire de collecte parce qu'on ne met pas de pression sur les gens. Il y a juste une boîte, un tronc, où on peut glisser si vous avez envie d'offrir quelque chose à Dieu qui sert pour l'organisation, l'allocation des locaux, la lumière, toute l'infrastructure qu'on a. Eh bien, l'offrande fait partie du culte. Voyez ? Et Jésus va prendre cet exemple de la pauvre veuve qui n'a pas un sou et qui vient, il lui reste deux petites pièces, elle vient les mettre. Et Jésus, qui lit le cœur de la veuve, il comprend que cette veuve, elle donne beaucoup plus que ce qui est que de son superflu. Et moi, je dois reconnaître que bien souvent, c'est mon superflu que je donne. Je ne vais pas entamer mes réserves. Et je le reconnais bien humblement devant Dieu. Mais la pauvre veuve, elle a vu ça comme un acte d'adoration. Et même si personne ne l'a vu, parce qu'il y a plein de gens qui devaient mettre de l'argent dans le tronc, et puis il y avait des riches qui devaient venir en se paradant dans des belles robes, ils mettaient un beau chèque ou ils mettaient une liasse de billets, etc. Et cette petite veuve, personne ne la voyait, mais Dieu voit au cœur. Il voit quand on le sert. Donc l'offrande est un culte. L'offrande est un culte. Et d'ailleurs, Jésus va donner l'exemple. À un moment donné, il est interpellé avec Pierre. On les interpelle tous les deux, on lui dit « Tiens, mais Jésus, toi tu ne donnes pas la dîme au temple. » Qui tu es, toi? T'es Jésus et voilà, tu viens comme un roi et tu donnes pas. Et Jésus, il dit, mais voilà, enfin, ce qu'il explique en gros, c'est que lui, c'est le créateur de toutes choses. Et pourtant, il donne l'exemple à Pierre et il dit, toutefois, ne scandalisons pas ces gens. Dans des versions, il est dit ça, ou ne jetons pas dans le trouble. Donc, si on me reproche ça, eh bien, je vais payer l'impôt. Et il se débrouille, bien sûr, pour avoir une pièce d'argent. Enfin, il donne un exemple en montrant qu'on adore le Père, lui Jésus, eh bien, il verse aussi sa contribution. Et enfin, dernière réflexion, ce verset de Matthieu, où est-ce qu'est mon trésor, finalement? Et l'adoration du Père ou l'adoration d'autre chose, ça peut être aussi l'adoration, l'argent peut être une espèce d'idole. Et enfin, le dernier exemple de Jésus, c'est l'exemple qu'il nous donne. C'est-à-dire que lorsqu'on rend un culte à Dieu, eh bien Jésus est présent au milieu de nous. Et aujourd'hui, je me réjouis parce que Jésus est là. Alors, vous ne le voyez pas, et moi non plus. Mais je sais qu'il est là, parce qu'il a promis qu'il serait là. Il a dit, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, et on est assemblés en son nom, eh bien, il est au milieu de nous. Et peut-être tout à l'heure, vous allez rentrer, vous allez être en famille, vous allez manger, vous allez être deux ou trois, vous allez prendre le repas, peut-être vous allez remercier le Seigneur, et Jésus sera au milieu de vous, et il va se réjouir avec vous. Et je vous encourage à penser à ça, et aussi à lui rendre un culte, à le remercier, à le louer. C'est pas réservé au dimanche matin, c'est une attitude permanente. Voilà, que le Seigneur puisse vous bénir et vraiment qu'il touche votre cœur pour vous faire comprendre, pour me faire comprendre, parce que j'en ai besoin autant que vous, que pour être des adorateurs en esprit et en vérité, comme Jésus l'enseigne à la Samaritaine, eh bien, il faut être ancré dans sa parole, comprendre qui est Dieu, comprendre ses caractéristiques. Souvenez-vous, cette liste de mots, faites-vous votre propre liste en lisant la Bible. Et vous verrez que ça va changer votre vie, ça va toucher votre cœur. Et Dieu sera glorifié au final. Voilà, amen.